il s'agit de pratiques de gouvernement. De pratiques de gouvernement, c'est-à-dire au-delà du cadre organisationnel, institutionnel, structuré des grands conseils à la Cour, et au-delà aussi de tout un courant historiographique qui étudie cela à travers les liens de clientèle, les parentèles, tout le, etc. Essayer de comprendre les mécanismes de gouvernement, quels sont les dispositifs de consultation qui sont mis en place, de délibération, et voilà, comment est-ce qu'on... Les circulations d'informations, parce qu'elles circulent quand même, et voilà, quels sont les itinéraires qui conduisent à la décision du roi. Et donc, effectivement, je travaille pour beaucoup jusqu'à présent sur des juntas, bon, pour affiner un petit peu la définition, c'est effectivement des petits groupes de conseillers qui souvent rassemblent des membres de différents conseils, mais pas que, et qui sont censés effectivement résoudre un problème particulier, une situation particulière, et offrir au roi un certain nombre de mises en perspective d'un sujet, d'une affaire ou d'une problématique, et même de monter des projets d'ailleurs, dans un sens presque contemporain. Alors,
le mot « junta », pour ceux des non-hispanistes, c'est « juntas ». J-U-N-T-A-S.
Alors, je n'emploie pas le terme « junte » en français à cause de toute la... À cause de toute la... Tout ce à quoi ça peut... Ce que ça peut évoquer et qui n'a rien à voir, effectivement, avec ce type de... Une commission. Ouais, commission, c'est bien, commission. Alors, je travaille ça à partir de documents spécifiques. D'une part, donc il y a, je dirais, la documentation législative, les cédules pragmatiques, ordonnances, donc qui sont les textes, entre guillemets, textes de loi. Je travaille sur ce que l'on appelle des consultes ou consultas, c'est-à-dire les résultats de délibération des conseils. Des conseils, des juntas, des juntes, etc. Également sur les correspondances entre ces personnages. Et je travaille aussi un autre matériau, plus, je dirais, plus difficile, plus sous-jacent au pouvoir, que sont les billets. Alors les billets... certains ont parlé d'écriture grise du pouvoir, si vous voulez. Ce sont ces échanges très informels, ces petits gribouillis sur un bout de papier écrit à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et qui, je dirais, met de l'huile dans les rouages, d'une certaine manière. Là, cette communication par billet est extrêmement palpable, fréquente, entre les secrétaires, surtout, entre les secrétaires du roi et avec le roi. Donc avec tout ça, je n'ai pas précisé la période, moi je travaille sur, disons, grosso modo, la deuxième moitié du règne de Philippe II, c'est-à-dire le dernier tiers du XVIe siècle, on va dire. Je voudrais essayer de voir dans ces billets, au-delà, si vous voulez, de l'information politique, ou même, pour être plus précis, de l'information gouvernementale, très concrète, qui est transmise au roi ou à un autre secrétaire. Bon, on verra les types d'interlocuteurs. Qu'est-ce que ces scripteurs, ces personnes qui rédigent ces billets, disent d'eux-mêmes? C'est-à-dire, quelles traces ils laissent de leur façon, à eux, de pratiquer, de gouverner, de soutenir le roi. Peut-être une façon de voir la façon qu'ils ont de penser leur action, et éventuellement de voir est-ce qu'ils se mettent en scène dans ces billets aussi, se mettant en scène, eh bien, servant le roi, servant la monarchie. Serait une approche, si vous voulez, qui se trouverait un peu à la croisée de l'histoire politique, en tant que histoire des rouages de gouvernement, d'articulation du pouvoir, et une sorte de sociologie des acteurs, c'est-à-dire de quelle manière agissent les secrétaires dans le cadre de leur rapport au roi. Je pars de ce premier courrier qui est un petit peu décalé par rapport à mon propos, mais je crois permet une entrée dans cette question de la représentation. Donc il est en espagnol, je vais le synthétiser, l'expliquer rapidement en français. Ici, le secrétaire Juan Vázquez, donc il est à ce moment-là secrétaire du Conseil royal, secrétaire de la Cámara de Castilla, en fait, le roi lui a demandé s'il devait s'exprimer afin de s'adresser aux Cortes d'Aragon, en l'occurrence, s'il devait dire « nous » ou « je ». Et donc, le secrétaire lui répond qu'il a, il est de commune habitude de dire « nous ». Et il va utiliser un argument, moi, qui m'intéresse beaucoup pour dire « nous ». Alors, bien sûr, il utilise l'argument de « le roi parle, au-delà de son individualité, il parle au nom de la dignité royale ». C'est ce qui justifie l'usage du « nous » royal. Mais il va avoir cette formulation qui me semble très intéressante. Il dit « porque no solo se habla en general con muchos ». C'est-à-dire qu'il suppose derrière le « nos » royal une pluralité d'acteurs qui ont été consultés et qui ont participé à la prise de décision. Et ça m'intéresse parce que ça veut dire que derrière ce « nos » de représentation royale, c'est-à-dire ce « nos » qui s'exprime, qui s'adresse au royaume, eh bien, on laisse implicitement la place à aux coulisses, véritablement aux coulisses de gouvernement. Le roi n'est pas le seul à se mettre en scène. Et il ne se met pas en scène que lorsqu'il s'adresse aux Cortes, bien sûr. Mais, en fait, il invite tous ceux qui travaillent à ses côtés. Donc, je pense là aux secrétaires, aux membres de junta, disons à ses plus proches ministres et conseillers, il les invite tous à mettre en scène sa parole, sa décision, ses choix et même les ordres qu'il donne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de cette sphère de conseil, si vous voulez, à cause des responsabilités des tâches qui leur sont octroyées, à cause de cette fonction de transmission et de représentation de la volonté royale, les secrétaires et les proches ministres du roi vont eux-mêmes mettre en scène leur propre pouvoir, qui en fait dépend pour une large part de leur relation propre avec le monarque. Donc c'est bien ça. C'est à l'image qu'à travers leurs propres écrits, ces secrétaires donnent d'eux-mêmes. Et pour éventuellement le tourner autrement, si vous voulez, est-ce qu'on peut identifier dans ces billets, dans cette documentation, une fonction sociale, d'autopromotion évidemment, une fonction sociale à côté de la fonction purement politique du billet comme instrument de gouvernement. Je vous propose de vous présenter quatre grandes thématiques ou quatre grands domaines qui me semblent intéressants. Dans le premier, je l'ai intitulé « Travailler à l'image du roi ». Dans un deuxième temps, j'examinerai les traces d'oralité. J'expliquerai, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup dans ces écrits, et c'est vrai que ça interpelle, ils insistent constamment sur le fait d'avoir reçu ou transmis oralement une information. Pourquoi est-ce qu'ils insistent à ce point pour mettre en avant cette transmission, cette communication orale, et de la mettre par écrit ? Le troisième point sera d'interroger la question de la mise en scène du secret. Et effectivement, ces secrétaires, vous pouvez l'imaginer, ont un rôle clé dans cette mise en scène du secret. Et j'essaierai d'arriver à la question des rivalités ou des rapports de force, si vous voulez, qui peuvent s'exprimer aussi par l'intermédiaire, à travers cette documentation. Alors, travailler à l'image du roi, c'est mon premier point. Je vous propose, il y a ces deux petits fragments. Bon, alors que votre majesté était en train de déjeuner, il est arrivé cela, on suppose qu'il parle d'un pli, hein, de Prada. Prada est secrétaire du Conseil de guerre au sujet de Saragosse. Donc on est en pleine révolte de Saragosse en 1591. En que hay poco más, hein, il n'y a pas grand-chose de plus. Mais enfin, on verra tout ça cette nuit. Bien, c'est un premier. Et on en a un second de Matteo Vázquez. Donc lui, c'est un, si vous voulez, comment il dit, Scudero, un archi-secrétaire. C'est le super secrétaire par-dessus qui chapeaute tous les secrétaires. Et donc il dit, lorsque je vous écris cela, de là il ne s'adresse pas au roi, hein, il s'adresse à son beau-frère qui est resté à Madrid, on est au moment de la succession du Portugal. Lorsque je vous écris cela, il est 6 heures du matin. J'ai passé la nuit entière à écrire, comme la plupart du temps, lorsque le courrier ordinaire doit partir. C'est une grande charge, très lourde. Dieu me donne le courage, Dieu me donne la force de l'accomplir. Bon, c'est quelque chose de très classique, il n'y a pas... On a, si vous voulez, dans ces deux exemples déjà, les deux choses. La nécessité de satisfaire aux exigences de brièveté du roi, dans le cas de Saragosse, ça urge, il faut savoir ce qui est véritablement en train de se passer. On est aussi devant un mécanisme de gouvernement, parce que pour pouvoir travailler la nuit, les hommes de la Junta doivent attendre que les délibérations de conseil soient terminées, d'avoir récupéré toute cette documentation pour à son tour statuer dessus. Donc on a tout ça, mais on a aussi des hommes qui se représentent à l'image du roi lui-même, travaillant jour et nuit. Philippe II, je vous le dis, je ne sais pas si vous le savez, est tenu pour un roi paperassier, bureaucrate, attaché, enchaîné à son bureau toute la journée, et c'est une en grande partie vraie. Donc il se présente travaillant de jour, de nuit, constamment, comme le roi lui-même. Hein. Donc on a l'image ici assez attendue, assez classique, du secrétaire dévoué, et que aussi bien Matteo Vázquez que Idiáquez, cette image du secrétaire dévoué se construit sur la base d'une action de gouvernement concrète. Bien. Alors, un second point sur cette question de travailler à l'image du roi, peut-être un peu plus intéressante, c'est le fait, donc ce sont deux fragments de billets de Matteo Vázquez. C'est Matteo Vázquez montre comment le travail de gouvernement peut être perturbé par l'activité à la cour, par tous ces courtisans, tous ces personnages à la cour qui viennent constamment demander une grâce, une récompense, viennent quémander. Et Matteo Vázquez, alors là, je vous le dis, nous sommes devant un moment très, très important. J'ai trouvé des traces d'humour sous la plume de Matteo Vázquez et j'ai la preuve que Philippe II a ri. Ouais. Donc, bon, voilà, je pourrais presque m'arrêter là, en fait. Alors, que dit Matteo Vázquez ? Et c'est très intéressant dans cette façon qu'il a de se montrer travaillant aux côtés du roi et presque avec le roi lui-même et en surplomb de toute cette cour qui grouille. Muchos extraordinarios, de nombreux courriers et un comte de Lemos sur le dos, vous a, et pas seulement le comte de Lemos, mais tous ceux que, alors que la cour est à Saint-Laurent de l'Escurial, tous ceux qui sont à Madrid, on les envoie à l'Escurial, ceux qui sont à l'Escurial, on les renvoie à Madrid, tous ces gens-là, je ne sais pas s'ils vous ont laissé, votre majesté, s'ils vous ont laissé travailler. Et dans l'autre, non, là je le présente après. Donc là, on a un Matteo Vázquez qui dit plusieurs choses. D'abord, évidemment, il nous dit quelque chose qu'on sait, c'est cette quantité de requérants à la cour qui est trop grand, qui sont ballottés d'un côté et de l'autre et qui viennent quémander constamment. Bien. Mais je crois, ce faisant, qu'il se place en surplomb vis-à-vis de ces demandes de grâce. Et par ailleurs, on sait que Matteo Vázquez, comme les membres de la Junta, était en charge de, et là je traduis les termes de l'époque, hein, de consoler, de tromper, de faire patienter tous ces requérants un temps indéfini jusqu'à ce que Philippe II prenne une décision. Donc on a un Matteo Vázquez qui se présente œuvrant au coude à coude avec le roi et dont son propre travail est perturbé. Il le dit très souvent ailleurs. dans une autre logique semblable, mais un petit peu différente, la logique de la coordination de l'action politique, Matteo Bafques met en lumière la difficulté qu'il éprouve à organiser les réunions de la Junta. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, au sujet d'un habit, alors, un habit des ordres militaires, donc, il y a trois ordres militaires de Castille, bon. Pour le fils de Don Luis d'Avalos, on pourra demander secrètement son opinion à Albornoz. Et afin que Don Luis d'Avalos reparte servir le plus vite possible, donc hein, qui quitte la cour le plus tôt possible, j'avais pensé convoquer à la Junta del Marqués, donc on va voir qui est ce marquis, Albornoz, Bonifaz et Pedro Gutiérrez Flores. Mais si Don Francisco, c'est le même que le marquis, si Don Francisco vient rapidement, alors à ce moment-là, il sera bon de réunir Albornoz, Bonifaz et Don Francisco, le fameux marquis. Et il précise, c'est là qu'il fait un petit peu d'humour, exclure le marquis serait une atteinte à sa réputation et il en serait extrêmement peiné. Et je me demande s'il ne s'en irait pas avec tout cela à Almazán qui est son fief, hein, sa seigneurie, afin de chanter des préfaces, car il paraît qu'il les chante très très bien. Donc les préfaces qui est une partie de la messe, la première partie de la messe, c'est à ça que répondra Philippe II, vous m'avez fait bien rire avec votre histoire des préfaces. Alors, le Don Francisco, marquis d'Almazán, c'est nul moins que Francisco Hurtado de Mendoza y Fajardo, donc grande famille de la noblesse castillane, et à cette époque-là, président du Conseil des Ordres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas le consulter sur un habit. Enfin, si, Matteo Bafques, il peut. Mais évidemment, ça va provoquer tout un tas de conflits. Donc, on a ici quelque chose, je crois, d'assez intéressant. Donc, Matteo Bafques informe de l'avancée de l'organisation d'une junta. Ça, c'est l'information gouvernementale. Il indique un problème de compétence juridique. On ne peut pas ne pas faire participer le marquis à cette réunion. Et en même temps, il souligne la susceptibilité d'Almazán qui s'en irait bouder. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est que, en fait, si vous voulez, se superpose l'organisation d'une consultation avec la volonté très claire de Matteo Bafques de discréditer Almazán qu'il n'a pas réussi à empêcher de devenir président du Conseil des Ordres en 1588. Donc on a, dans ces deux exemples-là, dans ces billets échangés entre Matteo Bafques et le roi, un espace de gouvernement, un espace où se développe une proximité, une intimité entre les deux hommes, et dans lequel Matteo Bafques se fait fort de se placer pratiquement à la hauteur du roi vis-à-vis de la société de cour, vis-à-vis des membres du gouvernement. En fait, ce que ce type de document et les quantités, les milliers de billets de ce type-là soulignent, en fait, je crois, d'une certaine manière, c'est la place, surtout ce qui est très fort, c'est la place que prend ce travail de bureau dans la vie quotidienne. Et c'est-à-dire que il y a une continuité de ce travail au-delà des espaces de réunion, des espaces publics du gouvernement, entre guillemets, et que ces tâches, on les accomplit sans distinguer le jour ou la nuit, sans vraiment distinguer non plus les salles de réunion du palais et les appartements. Donc tout cela afin de rehausser, hein, la fiabilité du service et de mettre en scène une vie entièrement consacrée au gouvernement. C'est un premier point. Le second point, donc sur les traces d'oralité. Ces traces d'oralité, donc moi j'en ai rencontré beaucoup et j'ai eu beaucoup de difficultés à les analyser. Je crois qu'on pourrait les scinder en deux sortes de pouvoir, de façon de se mettre en scène, de mettre en scène un pouvoir d'entendre, d'écouter et un pouvoir de dire. ce pouvoir d'entendre. Alors on a là un exemple, cet exemple de Juan de Idiáquez est très intéressant. Donc dans le premier paragraphe, il commence par se plaindre qu'il est très malade et qu'il ne sait pas si il va s'en remettre, mais quand même le médecin l'a autorisé. Si vraiment il fallait, si le roi en avait besoin, il pourrait quand même y aller. Bon, donc ça correspond un peu à ce que je disais précédemment. Et à la fin, comme si de rien n'était, il précise « je dois entendre ce soir », c'est-à-dire « je vais donner audience cette nuit, ce soir, un Français qui doit m'entretenir, si vous voulez, sur la façon de résoudre le problème de Holanda y Zelanda », donc c'est-à-dire c'est une référence à la révolte des provinces unies. Alors, on aimerait beaucoup savoir ce qu'avait à dire ce Français. Mais on ne le saura pas. Mais du coup, la question, moi, qui m'intéresse, c'est celle que je vous disais, c'est pourquoi constamment préciser ça? Et je crois que là, il y a chez Idiáquez une volonté très claire de montrer qu'il est en possession d'informations absolument cruciales, qu'il est le point d'arrivée d'un réseau d'informateurs européens immense, ce qui est effectivement le cas. Et du coup, il fait valoir ce qui va être sa spécialité sous Philippe II et même sous Philippe III, qui est la coordination de la politique européenne de Philippe II pendant presque 20 ans. Donc, je suis à l'agonie, etc., mais sans les informations que je possède, il sera difficile de gouverner. Donc une façon de s'affirmer dans une fonction très précise vis-à-vis du roi. Un autre exemple de Mateo Vázquez, à nouveau. Afin de s'informer, afin d'être informé de Bernabé de Pedroso, de certaines choses qu'il connaît, qui ont à voir avec le service de votre majesté, il faudra savoir de lui comment est-ce qu'il est venu ici, pour quelle raison est-ce qu'il est venu servir, etc. Et Mateo Vázquez dit à la fin, lui le sait, et il me l'a dit à moi, et on ne peut pas l'écrire, no es para carta, je ne peux pas me permettre de l'écrire, il me l'a dit à moi, on ne peut pas l'écrire, c'est une information que seule votre majesté doit recevoir. Et que répond le roi? Eh bien, vous lui direz de ma part qu'il vous le dise, et cela, vous le traiterez entre vous, lui et vous, sans que personne d'autre l'apprenne. Donc ici, Mateo Vázquez montre clairement que c'est à lui et à personne d'autre que Pedroso, qui est quand même au service de Rodrigo Vázquez, qui est le président du Conseil des Finances, et c'est de finances qu'il s'agit, c'est à lui qu'il s'est adressé, ce qui souligne une fois encore l'importance de son rôle gouvernemental qui vient chapeauter les grands conseils et le travail des autres secrétaires. Il s'agit de mettre en scène, et ça c'est très intéressant, son propre pouvoir à travers un usage renouvelé de la consulta a boca. L'émergence et la multiplication des consultas, du travail écrit, si vous voulez, de la communication écrite, fait que l'accès oral au souverain s'amenuise. D'accord ? Donc là, on a une espèce de nouveau mécanisme pour Mateo Vázquez qui est de servir d'intermédiaire dans cette consulta à Boca. Donc on est là, clairement, dans le registre de la confiance, de la confidence, où Mateo Vázquez se présente comme intermédiaire royal. Et j'en viens, alors là, c'est un pavé, et là, pour le coup, j'avais anticipé, j'ai la traduction sous les yeux. Quel est le pouvoir, quel serait ce pouvoir de dire que l'on va trouver écrit dans ce billet. Enfin là, c'est quand même plus un courrier. Lorsque je suis arrivé ici, le 20 de ce mois dans l'après-midi, j'ai prévenu de la tenue de la Junta dans la salle du Conseil d'État. J'ai prévenu qui ? Le comte de Barajas, donc président du Conseil de Castille, les présidents des Indes et des Finances, ainsi que Juan Fernández et Antonio de Guevara. Et le mercredi matin, j'ai prévenu le cardinal de Tolède, mais pas le marquis d'Almazán, oui, encore lui qui reste sur le carreau, ni Guardiola, ni Laguna, songeant que l'on pourrait se passer d'eux pour examiner et voter la proposition que j'avais à faire, ce que nous fîmes hier, le 23 de ce mois. La proposition que j'ai faite mercredi concernait ce que je savais de l'état des choses, des évolutions successives qu'avaient connues les 8 millions, des besoins actuels et de l'argent rapidement mobilisable afin d'y remédier. Nous en avons un peu parlé et je leur ai incidemment exposé le problème de la frappe de monnaie. Puis, nous décidâmes de repousser le vote le lendemain. Hier, je me suis dépêché de rencontrer Garnica, qui n'avait pas participé, afin de lui communiquer secrètement une partie de ce qui s'était passé la veille. Et nous nous mîmes d'accord pour que, avant le vote, je leur propose les solutions que je vous transmets, lesquelles concernent le sel, le savon, le fer et la ferronnerie, la franchise des villages, blablabla. Hier matin, Antonio de Guevara est venu me trouver pour me lire un papier que je joins ici. Et il nous a semblé que je devais le lire en junta, sauf le second chapitre qui fait figurer deux traits ainsi. Et il l'aimait, les deux traits. Sans dire que le papier était de lui. Puis ils se sont réunis et je leur ai dit qu'avant de voter, il serait bon de discuter encore un peu la proposition. Et qu'à ce propos, je voulais leur lire quelques papiers que j'avais avec moi afin de pouvoir ensuite voter l'ensemble. Le cardinal de Tolède a dit que cela lui semblait très bien et que mes paroles étaient dignes de celles d'un bon conseiller qui a à sa charge la compréhension des choses et leur conduite à bonne fin. Alors, je ferai trois commentaires de cet autoportrait en action de Juan Vázquez. Que fait Juan Vázquez? Il se présente comme une cheville ouvrière de la négociation. Il se présente comme celui qui agit. Mais il apparaît aussi comme celui qui sait, comme le confident et comme celui qui a suivi de près les développements de la négociation. Il donc développe les caractéristiques du bon serviteur, mais pas comme ça théoriquement du bon serviteur. Évidemment, c'est autopromotionnel cette lettre, mais ça montre aussi l'autonomie, l'initiative, la marge de manœuvre qu'a un secrétaire là, dans le déguisement des informations, dans la façon de réunir les personnes, etc. Ça, c'est un premier point. Le second point, il se présente comme possédant une hauteur de vue supérieure à celle de ses interlocuteurs, à celle de ses membres de la Junta. Ça paraît presque ridicule que le cardinal le trouve un bon conseiller, alors que « no sabe de la misa ni la mitad », comme on dit en espagnol. Il n'a que la moitié, il n'a que quelques informations. Mais pour Juan Vázquez qui écrit ça, ça veut dire quelque chose. Le cardinal le considère comme un bon conseiller. Mais je crois que plus que ça, à travers ce récit, Vázquez a l'intention, je crois que c'est une intention, de valider une pratique du pouvoir où les affaires et les négociations se nouent en deçà des salles de réunion. Réunion de conseil ou réunion de juntas. C'est-à-dire que par ce type de récit, qui met largement en valeur son efficacité, enfin leur efficacité pour parler des secrétaires, les secrétaires tendent à entériner des pratiques de gouvernement qui finissent par être leur spécialité, presque leur expertise, des pratiques de gouvernement qui reposent sur eux, sur leur diligence, leur expérience, leur habileté, etc. Bien, j'en viens à la question complètement liée à cette question de l'oralité, qui est la question du secret. Alors, de quelle manière cette documentation nous donne à voir les coulisses, los bastidores, les coulisses de l'action de gouvernement. J'ai deux exemples. La question, si vous voulez, au départ, moi qui m'intéressait, c'était au-delà, si vous voulez, de la stratégie d'occultation de l'information, qui peut reposer sur l'oralité, sur l'écrit, au-delà du mécanisme d'occultation, pourquoi, dans un certain nombre de billets, donner la clé, donner la méthode? Vous allez voir. Donc, dans le premier cas, que nous dit le premier cas? Donc, au sujet d'un certain Don Luis Fajardo, donc, qui est un militaire, on donnera pour ordre comme c'est l'habitude dans ce genre de cas, c'est précisé entre parenthèses, on transmettra un ordre secret que dont personne n'aura vent. Le courrier sera scellé et on enverra une personne de confiance pour le lui transmettre le cas échéant. Si c'est pas besoin, il reviendra à la cour avec. Bon. Et on a un deuxième, je vous en propose un deuxième exemple. Il y en a des choses comme ça, il y en a des centaines. Que l'on envoie ce document au cardinal d'une autre main, d'une autre écriture, comme c'est l'habitude, afin qu'il le voit pendant qu'il l'examine et qu'il en parle au Conseil de l'Inquisition. Conseil de l'Inquisition, quand même. Hein. Conseil de l'Inquisition. Donc on va faire semblant que c'est quelqu'un d'autre qui écrit. On va faire écrire quelqu'un à leur place pour tromper l'interlocuteur. Alors, évidemment, les membres de la Junta montrent ici toute leur ingéniosité, bien sûr. Ils montrent aussi leur maîtrise de l'information du gouvernement, c'est certain. C'est-à-dire qu'ils mettent en scène les rouages techniques de la circulation de l'information pour montrer qu'ils en sont les garants. Pour montrer qu'ils sont bien à l'initiative de l'action politique. Avec en plus cette mention d'habitude, como se suele en estos casos, une habitude dont ils dominent la mise en œuvre. Il y a aussi l'idée, qui rejoint ce que je disais précédemment, de mécanisation des pratiques. C'est-à-dire on cherche par ces documents à mécaniser, pérenniser aussi ces pratiques plus ou moins informelles du pouvoir. Et dans ce second cas, celui où il y a truchement de l'écriture, en fait, les membres de la Junta se protègent eux-mêmes. Et ils sont, en même temps, les acteurs de leur propre occultation. Et je crois que ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre, premièrement, qu'en fait, c'est moins l'information elle-même qui est occultée que son origine. Et deuxièmement, que le jeu de la Junta, c'est donc de dresser un mur entre les modalités de décision et ceux qui reçoivent les ordres d'appliquer ces décisions. Ce qui permet, à mon sens, aux membres de la Junta d'apparaître comme des metteurs en scène de l'action de gouvernement. Et ces stratégies d'occultation vont encore un petit peu plus loin. On a cet exemple-là est très intéressant. Je vous situe lorsque le roi réunit les Cortes, c'est-à-dire les représentants du royaume, en l'occurrence de Castille. Ces représentants du royaume doivent commencer la première chose, le premier jour. C'est protocolaire, ils doivent jurer de garder le silence des débats qu'il va y avoir à la cour, c'est-à-dire ne pas les transmettre à leurs villes respectives. Il se trouve que les représentants de Burgos, muy mal, ont communiqué avec leur ville. Et quelle va être la stratégie préconisée par Juan Vázquez, encore lui, afin de protéger la négociation? Dommage de ne pas pouvoir l'avoir en espagnol parce que c'est... où est-ce que c'est que je veux commencer à lire à partir d'un endroit. Alors, il est apparu qu'il suffira que le comte de Barajas, donc le président du conseil de Castilla, como de suyo, je l'ai souligné, je crois, hein, como de suyo, c'est-à-dire comme si ça venait de lui, il leur dise que on a compris, on sait ce qu'ils ont fait, et qu'ils ont contrevenu aux ordres du roi, et que pour leur faire une faveur, on a voulu leur prévenir de ne plus faire ça dorénavant, c'est-à-dire de ne plus parler avec leur ville sans en avoir l'autorisation du roi, car cela présente de nombreux inconvénients, et ça serait encore plus un inconvénient si Sa Majesté l'apprenait. Sa Majesté le sait. Là, c'est quand même une mise en scène incroyable pour protéger les négociations. À ce stade-là, on en est où de la négociation? Bon, Philippe II demande un service, c'est-à-dire un impôt exceptionnel. On s'apprête à négocier la quantité. On ne peut pas se permettre de faire, de provoquer un scandale en plein milieu de ces négociations. Donc là, on va tirer les ficelles et feindre l'ignorance du roi. Feindre l'ignorance du roi pour protéger les négociations. Je crois que là, on est quand même bien dans le domaine de la mise en scène. Est-ce qu'il me reste du temps? Parce que j'ai pas du tout regardé. Oui, ah, super. Alors du coup, je vais pouvoir passer à ma quatrième partie. Rivalité, rapport de force. Bon, rivalité, rapport de force. Donc un premier point que j'appellerais exploiter le conflit. Conflit. J'ai fait une toute petite parenthèse rapide. Penser le gouvernement à ce moment-là, c'est penser d'une façon juridique. Le gouvernement. C'est-à-dire que chaque conseil a une juridiction, c'est-à-dire un champ du politique sur lequel il agit, et il ne peut pas agir ailleurs que là. C'est-à-dire que c'est son champ du politique qui lui appartient juridiquement. À partir du moment où un conseil traite une affaire qui ne le concerne pas, ça produit ce que l'on appelle un conflit de compétences, des conflits de competencia ou de juridiction. Bien. Ici, ça n'est pas au niveau institutionnel que se pose le conflit, mais entre les individus. Juan de Obando m'a dit que votre majesté lui avait demandé de lui dire, de dire en conseil à Escobedo, Escobedo c'est un secrétaire qui aura une bien triste fortune, de dire à Escobedo que les consultes doivent être signées, oui, on va dire signées, par le conseil, et qu'il ne le fait pas. Donc Escobedo se défend de cette terrible accusation, et puis l'auteur, alors malheureusement je ne sais pas qui c'est, l'auteur de ces lignes dit, c'est intéressant à une autre échelle, mais je le, c'est une très vieille maladie de la monarchie que les juristes, ministres, n'aiment pas le lieu qu'occupe vis-à-vis des rois leur secrétaire. Donc il exprime cette rivalité. Bien. Alors, donc je ne connais pas l'identité de l'auteur de ces lignes, mais ce qui m'intéresse, c'est que il vient se placer finalement quelque sorte en juge du léger, puisque c'est assez léger comme conflit, entre Escobedo et Obando. Il met en scène une rivalité de laquelle il se détache sur fond de désobéissance aux ordres du roi et d'inconvenance dans la façon d'agir. La mise en scène de celui qui écrit se situe bien dans la volonté de se montrer en tant que fidèle serviteur du roi et en désignant ceux qui sont les mauvais ministres. Et par ailleurs, ce rapport social, je crois, est assez intéressant, puisqu'il renvoie dos à dos les ministres, les trados, aux secrétaires, ce qui nuance un petit peu la vieille opposition noblesse-juriste, pour aller vite. Voilà, un tout dernier exemple avant de conclure, où ici, si vous voulez, il y a en toile de fond un conflit, mais qui va servir à celui-là, au personnage qui rédige ce document, qui va servir à autre chose. Je vous l'explique ensuite. Antonio de Guevara m'a montré une lettre de Don Juan de Idiáquez dans laquelle Sa Majesté, Votre Majesté, m'ordonnait de réviser un certain nombre d'enquêtes qui ont été conduites à Séville contre Diego Maldonado. Bon, c'est une référence à un type de, à un juicio de residencia, hein, un contrôle des officiers royaux lorsqu'ils finissent leur mandat. J'ai ordonné, c'est le secrétaire qui écrit, j'ai ordonné à celui qui avait établi l'acte de rétablir la relation. Et ce qui en résulte est de très mauvaise qualité. Il aurait fallu que ce soit davantage nourri. ce qu'il convient en la situation, ce qu'il conviendrait, ce serait de donner ce procès à l'alcalde Espinosa, qui a une grande expérience de ses affaires, des affaires de Don Diego, et qu'une fois qu'il aura vu ce Espinosa, le dossier, qu'il écrive à l'alcalde de Valdivia afin que celui-ci examine les contestes, c'est-à-dire les réponses aux accusations, etc., etc., afin qu'un autre soit en charge de, etc. Ce qui me semble intéressant ici, c'est en fait la transmission du pouvoir. Le fait que le roi ordonne à l'auteur de ce document de procéder à une vérification. Et du coup, comment continue le document ? Eh bien, c'est lui qui va donner des ordres. D'abord, c'est lui qui va élaborer la procédure à suivre. Ça, c'est très important. C'est lui qui élabore la procédure de vérification et c'est lui qui donne les ordres. D'accord ? C'est-à-dire que par le billet, ce personnage-là récupère un fragment de pouvoir qui lui est délégué par le roi. Évidemment, par ses écrits, mais comme dans beaucoup d'autres écrits, on voit comment secrétaires, ministres, conseillers faisaient leur promotion. Ça, c'est pas tellement. On voit que cette promotion se réalise à travers leur travail de gouvernement. Ça, c'est déjà un petit peu plus intéressant. C'est-à-dire que ça n'est pas une promotion comme vous savez, ces listes qu'ils établissaient de bons et loyaux services. Hein, lorsque les officiers du roi demandaient une promotion. C'est-à-dire que c'est à travers l'action de gouvernement elle-même qu'ils font leur autopromotion. Mais ce qui me semble plus intéressant, au-delà de cette mise en scène de leur propre pouvoir à des fins d'autopromotion, c'est ces caractéristiques du bon secrétaire, du bon ministre, que l'on découvre ici d'une façon beaucoup plus riche que celle que l'on trouve, par exemple, dans des visions plus théoriques. C'est-à-dire que derrière la question des compétences, de la diligence ou du secret, on voit qu'il y a des pratiques beaucoup plus larges, beaucoup plus amples, comme la capacité d'initiative. Hein ? On dit habituellement que les conseillers doivent être diligents, œuvrer pour le roi, mais on ne dit pas qu'ils ont aussi une marge de manœuvre. Afin de conduire leurs fonctions. On élabore, dans le fait qu'ils élaborent eux-mêmes des procédures et des dispositifs de consultation, des dispositifs de délibération, on leur demande généralement. Et d'ailleurs, dans les instructions qu'on donne, que le roi donne lorsqu'il les nomme, ses secrétaires, les choses sont beaucoup plus réduites, hein, alors que là, on se rend compte qu'ils ont effectivement des possibilités beaucoup plus larges. Quant à la question du secret, qui les instructions en général, ou dans les traités de politique, quand on parle de la question du secret, il faut qu'ils jurent, il faut qu'ils procèdent au serment du secret, il faut qu'ils jurent de ne rien divulguer de tout ce qu'ils manipulent. Et donc on voit bien là, ici, que cette question du secret est encore plus, bien plus étendue, puisqu'il s'agit de protéger le roi. Il ne faut pas voir le roi en train d'élaborer une décision. Il ne faut pas voir les petites ficelles et les rouages du gouvernement. Donc un usage plus large. Voilà, je m'en tiendrai là. Merci.